두두두두. 쓰라진 아쿠두루 버니리.
Bonjour à tous et bienvenue dans Naître et Grandir. Aujourd'hui, le podcast à destination des parents et des futurs parents. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le deuxième épisode dédié au sommeil de nos bébés. Si vous avez manqué le premier épisode, il est toujours disponible sur vos plateformes d'écoute. Nous y avons abordé, avec mon invitée Laura, les choses à mettre en place pour favoriser un bon sommeil pour nos bébés et plus généralement nos enfants. Aujourd'hui, nous allons surtout parler de ce qui peut gêner votre bébé pendant son sommeil, mais aussi des régressions que l'on peut rencontrer dans cet apprentissage du bien dormir. Alors, bonne écoute! On a fini le dernier épisode sur le sommeil d'il y a 15 jours en parlant un petit peu de certains pièges à éviter et vous avez évoqué le fait de supprimer une sieste quand l'enfant n'est pas prêt. Alors, est-ce que vous avez des petites astuces, des petits conseils pour aider les parents à savoir en fait quand les enfants sont prêts à supprimer une sieste, tout simplement?
Il y a des signes un petit peu. Pour les siestes, il y a des signes qui montrent que l'enfant, là, clairement, il a plus besoin de cette sieste-là. Souvent, on parle de tranche d'âge, on dit, bah voilà, à partir de 6 mois, il va plus avoir besoin, enfin, plus tard, pardon, je me trompe, mais il va plus avoir besoin, par exemple, de la sieste du matin. Encore une fois, ça dépend des enfants. Si on voit que le matin, il est amorphe sur le tapis d'éveil, on le met au lit. Clairement, on le met au lit. Mais par contre, ce qui peut indiquer que cette sieste va plus être indispensable, c'est une courte sieste le matin, c'est-à-dire qu'on met l'enfant au lit, et on a vu au début que le cycle des bébés, c'est à peu près 60 minutes. Si on voit qu'au bout de 30, 25 minutes, 30 minutes, il se réveille, on peut commencer à se dire, bon, à mon avis, cette sieste-là, il n'y a plus besoin, et on va plutôt favoriser celle de l'après-midi. Ou, pour le soir, ça peut être pareil, quand ils sont tout petits, ils en font 3. Encore une fois, ça dépend des enfants. Et il y a la sieste trop tardive. Par exemple, on a un enfant de 2 ans et demi, souvent, on dit 2 ans et demi, la sieste après 15 heures, pas bonne idée. Pas bonne idée parce que, en fait, à cet âge-là, on commence vraiment à favoriser le sommeil de la nuit parce que c'est là où toute la... J'ai un trou de mémoire.
La régénération.
Oh là là, merci. La régénération cellulaire, les connexions neuronales, tout va se faire dans la nuit. Et du coup, on va vraiment privilégier le sommeil nocturne, quitte à le coucher plus tôt. Ça veut dire que peut-être qu'au début, on va être obligé de le coucher à 19 heures, si c'est possible. Encore une fois, ça dépend de comment ça se passe à la maison, à quelle heure on rentre le soir, est-ce que c'est faisable ou pas, bien sûr. Mais si la sieste est trop tard quand ils sont trop grands, malheureusement, il risque d'y avoir un coucher trop tardif et du coup, bah, comme je viens d'expliquer, ils risquent de se lever trop tôt. Encore une fois, ça dépend, ils sont pas tous pareils. Et certains enfants, clairement, ils commencent à montrer vers 3 ans des signes de « je veux plus faire la sieste ». Et quand on décide quand même de les mettre à la sieste, même tôt, même vers 13h, vers midi et demi, 13h, et ben le soir, ça va retarder l'endormissement trop tard, vers 21h, 21h30, 22h. Là, ça devient trop tard. Donc dans ce cas, cette sieste-là, on la fait plus. Au début, ça va être dur, clairement. Ça risque d'être difficile, mais après, bah, l'enfant va prendre le rythme et puis après, bah, il se couchera à l'heure que vous aurez définie à la maison. Moi, je sais que je dis tout le temps plus tôt c'est, mieux c'est. Encore une fois, on a un mode de vie qui est assez difficile à mettre en place. Donc, on fait comme on peut et on se culpabilise pas parce que on vit dans une société où on aime bien montrer tout. Ah, lui, il fait ses nuits, lui, il sait faire ça, lui, il sait faire ça. Non. Chaque enfant est différent, chaque famille est différente. Donc, on se culpabilise pas en se disant, ah ouais, mais là, je l'ai mis trop tard à cause du travail. Non. C'est pas le but. Je dis pas tout ça pour qu'après on se dise, non, mais moi, je suis pas une bonne maman parce que j'ai pas fait comme ça. Pas du tout. Moi, je suis là juste pour vous donner des pistes, voir ce que vous pouvez ou non mettre en place. Ce que vous acceptez aussi, parce que il y a des choses qu'on dit, qui vous intéressent pas, avec lesquelles on n'est pas d'accord. Voilà. De mettre en place et pour peut-être vous apporter des pistes et ce genre de choses.
De toute façon, les mamans, enfin les parents, les mamans, les papas, les coparents, tout ça, c'est eux qui passent le plus de temps avec leurs enfants. Donc, c'est eux qui savent aussi un petit peu ce qui est le mieux pour leur enfant, finalement. C'est sûr que, ben, par exemple, le rituel, comme on dit, il y en a, Un bain, ça va leur aller. L'autre, dans le bain, il fait la foire et après, c'est... Un, il y en a partout, on passe une heure à nettoyer. Et deux, il est surexcité, donc ça marche pas. Nous, c'est piscine, hein, tous les soirs à la maison. Donc, effectivement, chacun fait comme il peut avec son rythme. On est bien d'accord. Là, on a parlé un petit peu des siestes. Donc, juste pour reprendre, donc les siestes, voilà, tout petit. Alors, enfin, les premières semaines, il n'y a pas vraiment de rythme. Mais ensuite, donc, effectivement, ils se calent sur, en général, 3 siestes. Une le matin, une après-midi, une le soir. En général, laquelle saute en premier?
Ça va être celle du soir, après ouais. Celle du matin.
Et on garde celle de l'après-midi, ça marche. Et donc, celle de l'après-midi, donc, il y a là les petits signes qui montrent que l'enfant est peut-être prêt un peu à l'arrêter. C'est le fait qu'il y ait le coucher qui se décale un peu. Est-ce que, par exemple, parce que c'est vrai que quand il rentre à l'école, ils proposent automatiquement la sieste l'après-midi. Et à ce moment-là, en fait, on les oblige, hein. Enfin, ils sont obligés d'être allongés, etc. Et donc, si c'est un dormeur, malgré tout, même s'il faisait plus forcément la sieste à la maison, il risque de la refaire à l'école. J'en sais rien. Est-ce que ça, on peut apprendre à son enfant, par exemple, à lui expliquer que là, c'est plutôt un temps calme? Voilà. Est-ce qu'il y a des petites choses comme ça qu'on peut faire pour qu'il ait un temps un peu plus posé tout en ne dormant pas complètement?
Le temps calme, je le conseille même jusqu'à très, très tard. Parce que on a tous besoin d'un moment où on se repose. Même nous, les adultes, on voit, hein, après manger, on a un moment où on est, nos hormones, on change, notre température corporelle baisse, et là, d'un coup, on ne comprend pas ce qui se passe. On n'a qu'une envie, c'est de rester allongé. Et ben, c'est pareil pour les enfants. Alors, le temps calme, je le conseille jusqu'à au moins 10 ans. Même adulte, d'ailleurs, faites un temps calme. Parce que ça va être un moment où finalement, on va se poser et on va recharger les batteries pour après. Donc, on peut en parler à la maîtresse, lui dire, voilà, écoutez, pour moi, là, c'est compliqué parce que bah quand il s'endort, et bah le soir, c'est hyper dur de l'endormir et du coup, bah il dort pas assez la nuit. Donc, est-ce que c'est possible de plutôt tourner vers un temps calme? Il y a certaines maîtresses, même en première année de maternelle, qui acceptent. Pas toutes. Ça dépend encore une fois sur la maîtresse qu'on va avoir cette année-là. Mais dans ces cas-là, effectivement, en parler avec l'enfant parce qu'en plus, les siestes d'école, elles sont pas avant 13h30. 13h30, si c'est un bon dormeur, il peut se réveiller vers 15h30, 16h30, voilà. Après, ce qu'on peut faire aussi, alors je suis pas forcément pour réveiller un enfant, sauf dans ces cas-là, parce que, comme je dis, sommeil nocturne est vraiment important dans cette tranche-là. Donc, si vraiment il a besoin de dormir, dans ces cas-là, le laisser dormir une heure, pas plus, comme ça. Il a rechargé les batteries et il s'est endormi parce qu'il y en a pour qui on peut pas du tout les tenir réveillés. C'est pas qu'ils veulent pas, c'est que vraiment ils peuvent pas. Mais le fait de le réveiller fera qu'il aura pas trop dormi. Et que du coup, le coucher du soir sera moins difficile. Mais encore une fois, c'est en fonction des enfants. C'est vraiment, ils sont tous différents.
Ça marche.
Pour continuer, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des freins qui peuvent gêner le sommeil?
Alors, ce qu'on appelle frein au sommeil, c'est ce qui va, empêcher de bien dormir. Les plus connus, ça va être le fameux RGO, donc reflux gastro-œsophagien, que malheureusement beaucoup d'enfants ont et qui va passer entre guillemets quand l'enfant va commencer à se verticaliser. Ceci dit, c'est pas toujours le cas, c'est juste que des fois c'est très discret et qu'on s'en rend pas compte. Et il arrive même que des bébés, tout bébé, aient des RGO et qu'on s'en rende pas compte. Bon, là, ça va être peut-être un peu plus votre domaine aussi. Il y a aussi les freins bucco-restrictifs. Donc, les freins bucco-restrictifs, c'est des petits freins que les enfants ont dans leur bouche. Là, je pense que vous serez plus à même que moi pour en parler.
Oui, ça en fera sûrement un épisode là, un jour ou l'autre.
Tout ce qui va être allergie alimentaire, souvent manifesté par un RGO pour beaucoup. Après, il y a d'autres manifestations comme l'eczéma, enfin, comme plein d'autres choses. Il peut aussi y avoir des blocages dans le corps. Il faut savoir que l'accouchement, c'est un traumatisme pour la mère et pour l'enfant. Donc, une séance d'ostéo par an. Ah, moi, je dis ça dans tous mes accompagnements. Première chose que je dis, c'est d'accord, ok, est-ce que votre enfant a déjà vu l'ostéo? Non? Eh ben, on va aller voir un ostéo. Parce que vraiment, l'ostéopathe va permettre d'enlever toutes les tensions qu'il y a eu pendant l'accouchement. Mais plus tard, il tombe beaucoup. Enfin, il y a plein de micro-traumatisme qui se crée et du coup là le but ça va être d'enlever, de détendre tout ça quoi. Donc tout ce qui est blocage corporel, il peut aussi y avoir des situations familiales, des parents qui se séparent, c'est pour ça qu'il faut beaucoup verbaliser, il faut en parler énormément avec les enfants, ils le comprennent tout à fait, Donc vraiment en parler, il y a le réservoir affectif quand il n'est pas assez rempli, l'enfant il va se réveiller la nuit parce qu'il va avoir besoin d'un câlin qu'il a peut-être pas eu avant d'aller dormir. Le coucher trop tard aussi, ça peut être un frein. Du coup, il s'endormira moins bien. Les siestes qu'il a pas fait. Et puis après, comme j'ai expliqué, à partir de 3 ans, on favorise le sommeil nocturne plutôt que la sieste quand, après, ça dépend des enfants. Il y en a, ils ont besoin de sieste l'après-midi et ils dorment très bien la nuit. Il y en a, c'est pas le cas. Je pense que j'ai fait le tour au niveau des freins.
Ok. Alors juste, je vais vous parler un petit truc que j'ai vu là il y a pas longtemps, c'est par rapport justement au sommeil. Alors c'est plutôt pour peut-être les un peu plus grands qui savent parler. Et justement, c'est pour faire baisser un peu sur par rapport à tout ce qui s'est passé dans la journée en fait, pour aider l'enfant à extérioriser. Donc en fait, c'est la boîte à soucis. Je sais pas si vous connaissez. On fait une petite boîte à chaussures, peu importe. Et puis le soir, voilà, on demande à l'enfant de nous exprimer en fait ce qu'il a pas aimé dans la journée. On écrit dessus, on met dans la boîte. Et puis une fois qu'il dort, on vide la boîte. Comme ça, le lendemain matin, la boîte à soucis est partie et j'ai vu ça aujourd'hui, donc du coup, je m'étais dit que c'était plutôt un bon truc pour les plus grands, quand ils savent parler, quoi, pour extérioriser avant de dormir, finalement. Voilà, c'était partager ça avec vous, vous pensez que ça allait vous plaire.
Non, franchement, c'est une super idée. C'est comme, n'hésitez pas, quand les enfants ils sont nourris ou en crèche, à poser des questions. C'est hyper important que vous sachiez ce qui s'est passé. Vous remettez pas du tout en cause, et je vous dis ça, je travaille en crèche, hein. Donc, vous remettez pas du tout en cause le travail des professionnels. C'est juste que du coup, vous allez pouvoir mieux l'accompagner. Vous avez pas été là de la journée, finalement, vous savez pas vraiment ce qui s'est passé. Le fait de leur poser vraiment des questions, ça va vous permettre à vous de pouvoir en parler à votre enfant, même quand il est petit. Je sais pas, par exemple, vous apprenez que aujourd'hui, votre enfant s'est disputé avec un autre enfant de la crèche. Nous, en tant qu'adultes, on se dit c'est anodin. Sauf que quand nous on se dispute avec quelqu'un d'extérieur, c'est pas anodin. Et ça l'est pas non plus pour l'enfant. C'est pour ça que le fait de le savoir, vous pourrez lui en parler. Je sais pas, dans la voiture, du coup j'ai appris que tu t'es disputé. Voilà. S'il est en âge d'en parler, il en parlera. Et s'il est pas en âge d'en parler, il verra que vous êtes intéressé à sa journée, à ce qui s'est passé, et que vous mettez des mots sur ce qu'il a vécu. Donc faut pas hésiter. Et si les professionnels de crèche ou votre nourrice n'est pas d'accord pour vous donner les infos, c'est bizarre. Quand même important, quoi.
Ça marche.
Je vous propose maintenant de parler d'un autre sujet. Ce sont les régressions de sommeil. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, parfois, le bébé régresse un peu dans ses acquis au niveau du sommeil ?
En fait, les régressions de sommeil, c'est quoi ? Votre enfant, il va dormir super bien, ou en tout cas, il avait moins de réveil, les nuits se passaient mieux, il s'endormait plus facilement, et puis d'un seul coup, vous savez pas ce qui se passe. Les endormissements sont compliqués, il se réveille un peu plus la nuit, il a l'air gêné par quelque chose, mais vous savez pas ce que c'est. Souvent, ce sont tout simplement des régressions de sommeil. Alors en fait, faut savoir qu'il y en a à différents moments de la vie, et que tout ce qui va un petit peu perturber, entre guillemets, bébé, intérieurement ou extérieurement, peut créer des difficultés à s'endormir, des difficultés à dormir, etc. Et en fait, donc les régressions types, c'est-à-dire celles que vont souvent rencontrer les enfants, ça va être toute nouvelle acquisition moteur, donc ça peut être le quatre pattes, ça peut être la marche, ou alors ça va être apprendre le langage. En fait, toute nouvelle acquisition peut créer des régressions. Il peut y avoir les régressions un petit peu qu'on connaît très bien comme les dents, les maladies, donc ça c'est pareil, ça va perturber le sommeil de votre enfant. Et puis de toute nouvelle évolution, il y a l'angoisse de séparation également qui peut, pareil, créer plus de réveil la nuit. Et puis voilà, toutes ces petites choses qui peuvent le gêner. Donc en fait, faut savoir que le sommeil, c'est pas, entre guillemets, une science exacte. Et que du coup, il se peut que tout se passe très bien un temps et que d'un coup, ça recommence un petit peu à aller moins bien. C'est difficile, mais je veux vraiment rassurer tous les parents. C'est que ça passe. Souvent, les régressions, faut compter maximum 3 semaines et après, ça passe. Alors, 3 semaines, ça peut paraître super long quand on est fatigué. Mais ça ne reste pas. Si ça dure plus longtemps, c'est qu'il y a potentiellement peut-être quelque chose d'autre qui perturbe le sommeil de votre enfant, mais en tout cas, si ce ne sont que des régressions, rassurez-vous, ça passera.
Eh bien écoutez, c'est très très clair, merci. Est-ce qu'éventuellement, il y a un autre sujet que vous voudriez aborder par rapport au sommeil, auquel je n'ai pas pensé ?
Je voulais également insister sur quelque chose qu'on voit beaucoup, qu'on entend beaucoup, notamment des grands-mères, des mamans qui disent que faut laisser le bébé pleurer avant d'aller dormir parce que bah ça lui fera ses poumons, ça lui permettra d'apprendre à s'endormir seul. Alors, oui, c'est vrai. Votre enfant apprendra à s'endormir seul si vous le laissez pleurer. Mais c'est pas une bonne chose dans le sens où il va s'endormir en ayant libéré une très grosse dose de cortisol, cortisol qui n'est pas bon pour le développement de son cerveau. Donc, effectivement, viendra un temps où votre enfant, vous le poserez dans le lit, s'endormira tout seul. Sauf que il sera hyper stressé, que l'endormissement, il ne montrera pas que ça ne va pas, mais il l'intériorisera. Et du coup, bah, effectivement, on aura les résultats attendus, c'est vrai, oui, mais à quel prix, j'ai envie de dire, à quel prix? Si c'est pour que plus tard, ce soit un enfant, enfin un adulte, du coup, pardon, qui manque de confiance en lui, qui préfère éteindre ses sentiments, ne pas les partager, ou ce genre de choses, je me demande si ça vaut vraiment le coup de les laisser hurler, et je parle pas d'un petit pleur, de chouiner, entre guillemets, avant d'aller dormir, je parle de vrais pleurs, oui. On sent qu'il y a quelque chose de difficile à vivre pour le bébé. Je parle vraiment de ces pleurs-là. Ceux-là, c'est vrai qu'on arrive à des résultats. Voilà, on le voit, les bébés s'endorment au bout d'un moment tout seuls et s'éteignent un peu, dans le sens où ils ne partagent pas leur désarroi, ils gardent tout pour eux parce qu'en fait, ils pensent que personne ne va venir, entre guillemets, les sauver. Donc, ce n'est pas pour faire peur ni rien, c'est juste pour montrer que laisser pleurer son bébé, ce n'est pas une bonne chose, qu'il faut l'accompagner, que des fois on est complètement perdu et qu'on ne sait pas pourquoi il pleure, mais que dans ces cas-là, bah, on lui explique, bah là, je ne comprends pas pour quelle raison tu pleures, mais en tout cas, sache que je suis là. Je suis là, si tu as besoin, fais un câlin. Et puis voilà, juste montrer qu'on est là. Donc voilà, je voulais surtout insister sur ces points qui me paraissaient importants. Puis rassurer aussi les parents. Sachez que votre enfant dormira un jour ou l'autre, tout seul, qui s'endormira tout seul, qu'il dormira plus avec vous. Aucun enfant au-delà de, allez, on va dire 10 ans, et encore je suis très très large, mais aucun enfant au-delà de 10 ans continue de dormir avec ses parents. Il faut bien comprendre que c'est la honte quand même. Donc voilà, je voudrais un peu relativiser de ce côté-là. Et puis, s'il y a une chose que j'ai appris dans ma parentalité à moi, c'est que des fois, il faut lâcher prise, même si c'est hyper difficile. Parce que, on n'a pas de réponse toute faite. Et puis que des fois, vaut mieux lâcher prise pour ne pas trop se stresser. Et que, voilà, que ça aille mieux.
Ok, alors j'ai une dernière petite question, qui est une question que je vais poser à tout le monde, à chaque interview. C'est, est-ce que vous avez un petit plaisir, un petit truc qui vous aide à tenir dans votre journée de maman? Ça peut être un carré de chocolat le soir avant de dormir, ça peut être une séance de sport, j'en sais rien. Le petit truc qui fait que les batteries étaient à plat et ça remonte un peu le niveau pour repartir.
Alors, moi, je suis quelqu'un qui me lève très tôt le matin pour m'accorder mon petit temps à moi. Ça veut dire que je me fixe 1h30 avant le réveil de mon fils. Et ça veut dire que, par exemple, je me fixe une demi-heure où je fais de la lecture, où je me prends un petit café au calme, sans bruit ni rien, où je suis posée, parce que comme ça, en fait, je commence bien ma journée. Et après, quand vraiment le soir, j'en peux plus, je vais chercher un Kinder Bueno, j'avoue.
Ça marche, c'est deux bonnes astuces. Celle du matin, il faut juste être motivé, hein, mais...
Clairement, oui.
Je mets régulièrement le réveil plus tôt le matin, et puis souvent, au dernier moment, je dis, bon, allez, hors décal.
Franchement, si vous faites ça, vous verrez qu'au début, ça va être super difficile. Et après, vous serez tellement contente d'avoir pu lire, par exemple, je sais pas, vous avez un projet personnel en tête, formation, par exemple, ou de la lecture, ou peu importe, que vous direz, ah, demain, c'est cool, je vais me lever tôt, je vais pouvoir continuer. C'est juste les débuts qui sont durs, j'avoue.
Ok, écoutez, merci beaucoup.
Merci.
Avant de clôturer cette série sur le sommeil, je voulais vous parler d'un livre qui traite des problématiques de sommeil chez le jeune enfant jusqu'à 6 ans. Il s'agit du livre intitulé tout simplement « Le sommeil du jeune enfant ». Un livre à destination des parents qui ne font pas leur nuit, dit l'auteur du livre, Héloïse Junier. Elle est psychologue pour enfants et formatrice auprès des personnels de crèche sur des thèmes comme les émotions, le sommeil, l'autorité bienveillante ou encore l'attachement. Le préface du livre est écrit par Catherine Guéguen, qui est pédiatre et elle-même auteure d'ouvrages sur la vulgarisation des neurosciences affectives et sociales. Pour simplifier, elle va expliquer de façon simple comment fonctionne le cerveau et comment il se construit d'un point de vue affectif et social. Donc, pour ce livre sur le sommeil, ce qu'il faut en retenir, c'est qu'il est composé de 4 grands chapitres qui permettent de comprendre d'abord comment fonctionne le sommeil des enfants, tout simplement, ensuite de savoir concrètement comment faire pour les faire dormir, avec plein de pistes pratiques, notamment par exemple comment on réagit quand il se réveille la nuit et qu'il pleure, comment on aménage sa chambre pour favoriser le sommeil, des petites choses comme ça. Ensuite, il y a une partie avec des vrais faux, pour faire un peu le point sur tout plein d'idées reçues qu'on peut avoir. Les choses qu'on entend le plus régulièrement, par exemple, comme « Laisse pleurer ton bébé tout seul, il va finir par s'endormir. » Ou bien « Arrête de le faire dormir dans tes bras, il ne dormira jamais tout seul dans son lit. » Voilà, ce genre de choses. Donc elle répond au vrai-faux, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. Elle le démontre, en quelque sorte, par un petit argumentaire. Et puis enfin, une partie intitulée « C'est grave docteur » ou « Quand le sommeil d'un enfant devient problématique ». Donc vous l'avez compris, c'est un programme bien chargé, mais passionnant, qui est amené avec beaucoup d'humour, donc c'est très facile à lire. Tout au long du livre, Héloïse Junier, elle se base sur des données scientifiques, d'accord ? Donc c'est vraiment des choses prouvées scientifiquement. Et elle fait à la fin de chaque petit chapitre ou sous-partie un petit résumé qui permet vraiment de mémoriser l'essentiel et donc de ne pas être noyé dans toutes les informations. Bref, un livre super pour tous les jeunes parents ou les futurs parents en devenir. Je vous ferai un petit post sur les réseaux sociaux du podcast, donc Instagram et Facebook, pour vous mettre les références de ce livre et puis vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Je vais maintenant pouvoir conclure ces 2 épisodes sur le sommeil, en espérant que cela vous a plu. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode sur le sommeil et merci à Laura pour ces 2 épisodes passionnants et pleins d'informations. Si vous rencontrez des difficultés avec le sommeil de votre enfant, de plus en plus de professionnels de santé et de la petite enfance sont formés à ces problématiques. Donc n'hésitez pas à en parler et à demander conseil si besoin, à la nounou, à la crèche, au pédiatre. Ils auront certainement des adresses à vous communiquer afin de vous faire aider. Pour rappel, chaque bébé évolue à son rythme, que ce soit d'un point de vue moteur, éveil, mais aussi pour le sommeil. Donc laissez-lui le temps de s'adapter. Ne vous attendez pas à ce qu'il fasse ses nuits au bout de 3 jours, même si, je l'avoue, certains le font. Mais clairement, ce sont plutôt des exceptions. Comme nous l'a dit Laura dans le premier épisode, le sommeil d'un enfant peut être perturbé jusqu'à l'âge de 6 ans environ. Et c'est tout à fait normal. Donc, pas de panique. Je sais que 6 ans, ça peut paraître long, mais promis, il dormira. Dans 15 jours, nous parlerons grossesse, et plus précisément, le suivi de grossesse avec Noémie Vors, qui est sage-femme. Aujourd'hui, je laisse le mot de la fin à Edouard pour, vous allez voir, un petit moment de bonheur à écouter. En attendant de vous retrouver pour le prochain épisode, prenez soin de vous et de vos bouts de choux.